France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Tous les regards donc vers le PS depuis le début de cette séquence budgétaire, d'ailleurs, qui s'achève en trois temps, 49-3 deux fois, le budget de l'État et le budget de la Sécurité sociale, et puis peu de temps avant, donc cette décision de ne pas censurer, pas censureux du tout, puisque le parti assure qu'aucun député ne manquera à l'appel. Un vrai front renversé, donc, par rapport au dernier budget, celui de Michel Barnier, où est le RN qu'on avait vu là, en l'occurrence en première ligne, le RN qui a presque signé le coup de grâce avec une censure partagée avec la gauche du dernier gouvernement. Cette fois donc pas de ligne rouge fixée par le RN, une position même tellement attentiste qu'elle en a presque vu disparaître Marine Le Pen après la mort de son père, un retrait dont on essaiera de comprendre d'ailleurs ensemble s'il est stratégique et surtout comment. La décision de la censure, le RN a prévu de la donner au dernier moment, là pour le coup comme la dernière fois, ce sera probablement dans deux jours, mercredi, mais désormais cette décision est porteuse d'autres messages. Le RN peut dire son opposition à ce budget et annoncer la censure donc à moindre frais, sans le PS aucune chance que ça passe, les arguments façon UMPS d'antan, l'alliance de fait du PS avec la droite traditionnelle, ces arguments-là tiennent encore la route et peuvent encore avoir du sens électoralement. Le RN peut dire non, on ne censure pas puisque ça sert à rien, ce qui renoue peut-être, et vous nous le direz, avec la stratégie de la cravate, on n'ajoute pas à l'instabilité, on ne fait pas de gestes brusques. Vous nous direz ce que vous lisez, vous, dans ces choix futurs ou dans ces non-choix, et puis bien sûr on va aussi parler de Marine Le Pen elle-même, son retrait très temporaire a été très visible, au point qu'on se demande d'ailleurs si au RN, on perd ses repères lorsque la patronne n'est pas là. Et ça aussi, ça nous parle des prochaines échéances électorales. C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
La première question, elle est sur WhatsApp, une fois n'est pas coutume, c'est une question de Pierre de Châtillon qui nous dit ceci. Puisque François Bayrou a choisi la stratégie inverse à Michel Barnier en négociant avec le Parti Socialiste, est-ce que le RN est devenu inoffensif pour le Premier ministre? Pour répondre à la je vois la tête d'Élodie Forêt, ben écoutez, vous répondrez à la première, Élodie, vous êtes journaliste au service politique de France Inter.
Bonsoir.
Il y a Charles Sapin qui est là également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste politique au magazine Le Point. Et puis Benjamin Morel, bonsoir.
Bonsoir.
Constitutionnaliste, docteur en sciences politiques. Vous avez notamment écrit Le Parlement, Temple de la République de 1789 à nos jours, aux éditions passées composées. C'était l'année dernière, en 2024. Charles Sapin, est-ce qu'il est devenu inoffensif au gouvernement, le Rassemblement national?
Ce qui est vrai, c'est que pour faire tomber un gouvernement, à l'issue d'une motion de censure, il faut 289 députés. C'est-à-dire la totalité des forces du Nouveau Front Populaire, Parti Socialiste compris, et le Rassemblement National. À partir du moment où vous avez une de ces forces bon an, mal an, n'a pas vraiment envie de censurer, si vous voulez, peu importe que les autres censurent, puisqu'il faut vraiment ces 289 députés. Maintenant...
Mais pardon, ça envoie quand même un message quand on dit oui ou non, même si on sait bien que ça a du poids ou ça en a pas, non? Ou pas du tout, en fait.
Mais oui, vous avez totalement raison. Ça envoie un message et c'est d'ailleurs, en fait, tout le sujet de cette ligne de crête qu'essaye de respecter le Rassemblement National. Parce que si Marine Le Pen et son parti sont très très attachés à ce statut de premier opposant au gouvernement, ils aimeraient bien aussi un jour arriver au pouvoir. Et pour arriver au pouvoir, il ne faut pas être perçu comme une force qui n'est simplement un vecteur systématique de chaos, d'instabilité. Il faut, aux yeux de l'opinion, apparaître comme une force de stabilité, de responsabilité aussi. Donc c'est vrai que ça va être intéressant de voir les positionnements du Rassemblement National sur ce vote de la censure, en sachant qu'on voit que c'est assez... le Rassemblement National... cette question et pas tout d'un bloc. Vous avez...
Oui, non, pardon, finissez. Parce que oui, allez-y.
Vous avez des élus, je pense notamment à Jean-Philippe Tanguy.
C'est pour ça que vous m'avez vu réagir. Effectivement, je pensais à ça aussi. On l'a entendu, c'était quoi, il y a deux jours?
C'est ça, c'est lui qui, le premier, a menacé la menace de la censure. Alors, c'est un député de la Somme qui est président délégué du parti. Et si vous voulez, lui, il est plutôt fidèle à l'ADN populiste du parti. C'est-à-dire que, finalement, il faut faire tomber le gouvernement. Il ne faut pas avoir de mansuétude. François Bayrou, comme Michel Barnier avant lui, est une émanation du système qu'il faut le faire tomber et peu importe finalement le prétexte. Il y en a d'autres au Rassemblement National qui sont beaucoup plus mesurés, qui se disent que le Rassemblement National a déjà fait tomber François Bayrou, que l'électorat qui manque au Rassemblement National aujourd'hui, c'est-à-dire un électorat un peu bourgeois, plus aisé, plus âgé, pourrait en fait tenir rigueur au RN de faire tomber, ou en tout cas voter une seconde fois la censure pour, sur un Premier ministre. Et donc, qui voit là plutôt, en effet, l'occasion de renouer avec la stratégie de la cravate, comme vous l'avez souligné.
Alors, Benjamin Morel, effectivement, Charles Saint-Pin l'a souligné, il y a eu ce passage avec Jean-Philippe Tanguy, et en même temps, le passage, il est sur ce fameux article 4, je suis même obligée de regarder mes notes pour me souvenir ce qu'il dit exactement, parce que le cadre de régulation des revenus d'EDF, enfin, c'était quand même assez abscon quand même pour la plupart des gens. Donc ça veut dire que toutes ces lignes rouges, malgré tout, qu'on a vu apparaître au moment du gouvernement Barnier, on a l'impression qu'ils les ont cherchées. En fait, qu'on cherche la ligne rouge, on la trouve pas. Et pour finir, pardon de le dire comme ça, mais sur cet article 4 que personne ne comprend vraiment, ça dit quoi? Ça dit qu'il n'y a pas de prise ou pas?
Ça dit surtout qu'on est dans une stratégie strictement électorale. Hein. Les lignes rouges qui se rajoutaient au fur et à mesure au mois de décembre, elles avaient pour but essentiellement de justifier une position électorale. Cet article 4, en effet, il est assez ésotérique, même s'il y a évidemment un lien avec le pouvoir d'achat et la question de l'électricité, ce qui permet malgré tout d'envoyer un message à l'électorat. L'idée, simplement, c'est de voir est-ce que le RN a ou n'a pas intérêt, en effet, à censurer. Et là, on est dans des circonstances un peu différentes de celles du mois de décembre. Au mois de décembre, on a un électorat RN qui fait pression sur la censure, et notamment à partir du moment où on voit une politisation du budget. Or, si on veut comprendre le Rassemblement National, on dit beaucoup le RN a intérêt à élargir son électorat. Oui, peut-être, mais il a surtout intérêt à ne pas perdre sa base électorale. Il faut voir que l'électorat RN, c'est un électorat fondamentalement abstentionniste. Si on veut comprendre le RN d'aujourd'hui, il faut comprendre les dernières régionales. On prévoit 3, 4, 5 régions au RN et finalement il n'en a aucune. Pourquoi ? Pas parce que ces électeurs ont été votés ailleurs, mais parce que ces électeurs n'ont pas été votés du tout. Mmh. Et donc ça, Marine Le Pen a bien compris que la mobilisation de sa base électorale, c'était ce qui lui avait permis d'avoir 120 députés. Que la mobilisation de sa base électorale, c'était nécessaire pour demain essayer d'emporter une élection, ou en tout cas pour ne pas la perdre. Donc avant d'élargir cet électorat, elle doit d'abord le bétonner, elle doit d'abord le mobiliser. S'il lui demande de censurer, eh bien elle a plutôt intérêt à censurer. Aujourd'hui, on a un électorat RN qui est sur une position pro-censure, mais relativement timorée, et qui n'en tiendra probablement pas rigueur au parti. Donc elle peut se permettre d'élargir, et dans ce faisant, la probabilité de censure de sa part est plus réduite.
La base, Élodie Forêt, là-dessus, justement, j'ai l'impression que parfois on a du mal à la lire, parce qu'on avait dit, au moment de la première censure contre le gouvernement Barnier, on a dit, Marine Le Pen va le payer sur sa base, effectivement, parce qu'il ne faut pas être l'agitateur. Et puis on s'est rendu compte finalement que c'était assez indolore.
On ne disait pas tant qu'elle allait payer sur sa base, parce que sa base, et on le voit, nous, quand on va dans les meetings, était quand même, et vous l'avez dit, Benjamin Morel, était quand même très pro-censure et répétait qu'il fallait faire tomber les gouvernements, même plusieurs fois si c'était nécessaire. Donc la base était c'était pas tellement l'inquiétude. L'inquiétude, c'était comme vous l'avez dit, Charles, c'était plutôt sur le nouvel électorat peut-être du RN, cette frange qu'ils essaient de conquérir. C'est les retraités, par exemple, qui, on le voit dans les sondages, il y a de plus en plus de retraités qui votent Rassemblement National. Mais malgré tout, ça peut rester encore un peu un électorat volatile. L'électorat LR aussi, qui pourrait être tenté un jour par un vote RN et qui ne l'est pas encore forcément complètement convaincu. Donc c'était plutôt sur cet électorat-là qu'il y avait peut-être une question, avec un peu un pari, mais que Jordan Bardella, moi, m'avait expliqué, c'était de se dire, on fait quoi en fait? Est-ce qu'on ne censure pas et du coup, on protège ce pourcentage électoral qui nous est pas complètement acquis? Si on ne censure pas, on risque de se priver aussi de une part de notre électorat qui a envie que ça dégage. Du coup, vraiment, il y avait un pari, un petit risque, et oui, finalement, les sondages post-censure ont plutôt été rassurants pour le RN, qui n'y ont pas vu de crise majeure. Et puis encore une fois, il y a eu des meetings après. Moi, j'étais à un meeting dans l'heure, juste après, qui était rempli. Enfin, je veux dire, avec une queue à l'extérieur énorme. Et là, ils se sont dit, c'est plutôt indolore tout ça.
Et bien alors, justement, pour aller dans le sens de ce que vous dites avant de retourner au standard, juste un mot, celui de François sur WhatsApp qui dit, où est le RN, demandez-vous. Mais au niveau national, je ne sais pas. Mais je crains qu'au niveau local, ils soient en train de battre campagne pour les municipales de 2026, c'est notamment. Vrai. Et au fond, ça rejoint ce que vous dites à l'instant. Ce qu'on ne voit pas nationalement existe bel et bien.
Attention au faux plat, Attention au faux plat, parce que derrière. L'idée d'un faux plat, parce que ce qui se passe en ce moment en coulisses, c'est aussi beaucoup d'investiture, à la fois pour les élections municipales dans un an et pour d'éventuelles élections législatives. La Commission nationale d'investiture. l'investiture du RN semble, enfin en tout cas c'est ce qu'on nous raconte, tourner à plein régime. Donc, oui, il se prépare et donc attention quand même à ne pas trop en faire, de cette absence en ce moment et de ce brouillard qu'on peut percevoir, un signe d'affaiblissement du RN, je pense que ça serait faux.
Et je vois autour de la table vos collègues qui font oui avec la tête. Je voudrais qu'on écoute une note vocale, c'est celle de Christelle, on la découvre ensemble.
Le RN fait exprès de faire durer le suspense tout simplement pour reprendre la main, pour être le maître des horloges en faisant comprendre, en disant « vous êtes allé un petit peu plus à gauche », et on reprend la main pour dire « c'est toujours nous qui décidons au final ». Donc pour faire oublier les ennuis judiciaires, rien de mieux que de faire jouer encore le gouvernement. Et eux, ils marchent avec les deux pieds liés directement dans le RN. Pathétique.
Christelle qui signe cette note vocale, ce qu'elle nous dit en creux, Benjamin Morel, c'est et à la fin c'est le RN qui gagne.
La réalité, c'est que vous avez exposé un peu tout à l'heure le dilemme stratégique du Rassemblement National. En effet, le RN est dans une position où la mise en jeu de la censure ou de la non-censure d'un point de vue parlementaire ne peut que l'arranger. Soit vous avez en effet le PS qui décide de ne pas censurer, auquel cas le RN peut dire « écoutez, nous on censure, c'est le retour de l'UMPS, donc regardez ». Il y a deux alternatives au système Jean-Luc Mélenchon qui fait peur à une grande partie de l'électorat ou nous. Nous, on est plus raisonnable, donc la prochaine fois, choisissez-nous, nous. Et regardez cette droite LR, ces gens-là qui s'allient avec le PS, etc. Tout ça n'est pas très sérieux. Soit ils décident de ne pas censurer, et auquel cas, en effet, on a stratégie de la cravate. Regardez s'il y a un budget, c'est grâce au Rassemblement National. Ces gens-là sont quand même sérieux. Regardez s'il y a un gouvernement, c'est grâce au RN. Ce sont quand même des gens sérieux. Donc aujourd'hui, il y a une ampleur et une capacité d'action stratégique extrêmement forte, et ça évidemment, ça permet d'élargir l'électorat.
Mais du coup, Charles Sapin, ça sert à quoi d'attendre 48 heures, en fait, de jouer ce suspense-là, qui n'est pas vraiment un suspense, donc on se dit que ça ne rime pas à grand-chose. Enfin,
ça, c'est une coquetterie habituelle de Marine Le Pen. Elle aime beaucoup prendre ses décisions. Alors, elle les prend...
Le mercredi.
Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que, bon, évidemment, ses décisions sont prises un peu en amont, mais elle aime bien les annoncer. Enfin, elle a un goût, d'ailleurs, comme Emmanuel Macron, comme beaucoup de politiques, un peu pour le théâtre, c'est-à-dire elle maîtrise ses scènes et ses actes. Bon. Pour rebondir sur ce que disait Christelle, c'est vrai qu'il y a une volonté stratégique et même une mise en scène de faire tenir un suspense pour après délivrer sa décision au dernier moment. Après, là où je m'inscris un peu en contre avec Christelle, c'est quand elle dit tout ça est lié à l'agenda judiciaire.
Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont sur l'agenda judiciaire, évidemment.
Et alors, pour le coup, moi je m'inscris plutôt en faux par rapport à cette analyse. Pourquoi ? C'est quelque chose aussi qu'on a beaucoup entendu dans la tête, des ministres du gouvernement Barnier, du bloc présidentiel, en disant « Oui, si Marine Le Pen censure, c'est parce qu'il y a son procès. » Alors, c'est bizarre parce
Je vous interromps, Lorraine doit être un peu gênée aux entournures avec le procès de Marine Le Pen. En effet, dans quelques mois, va tomber sa probable condamnation à une peine d'inéligibilité. Donc, ça pourrait sembler le moment propice, etc., pour pousser Emmanuel Macron à la démission ou à d'autres stratégies.
Alors, justement, moi, ce qui me gêne avec cette analyse, c'est que, en fait, il n'y a aucune conséquence. C'est-à-dire que, si vous voulez, le fait qu'un ministre... pense notamment à Angente qui l'a dit que Marine Le Pen censure un gouvernement en raison de son agenda judiciaire, soit dans le meilleur des cas, c'est du complotisme chic. Ça veut dire que soit dans le pire des cas, c'est un aveu terrible. C'est-à-dire que faire tomber un gouvernement, faire tomber un Premier ministre, un ministre de la Justice, pourrait avoir une conséquence sur une décision de justice. Ça remet totalement en cause la séparation des pouvoirs. Si vous voulez, si Marine Le Pen censure ou censure pas, ça changera rien au délibéré qu'il sera donné par les juges en première instance fin mars.
Voilà, j'avais deux petites choses sur lesquelles je voulais revenir.
Le délai Morel aussi, je l'ai vu réagir. Allez-y.
Non, mais le délai de 48 heures, moi j'avais peut-être une autre explication. C'est pour avoir parlé avec plusieurs d'entre eux, plusieurs cadres du RN. C'est peut-être aussi pour pas être complètement associé à la décision du PS, de pas dire allez, le PS a fait ça, donc on réagit pas, donc on garde un peu une maîtrise.
On ne peut pas le faire en réaction, c'est ça que vous dites en fait.
Voilà, on garde une maîtrise de son tempo. Par rapport à l'agenda judiciaire, moi ce que je comprends pas, c'est ce que ça lui amènerait effectivement de faire tomber maintenant le gouvernement, parce que ça n'entraîne pas de dissolution, parce que ça n'entraîne pas de démission d'Emmanuel Macron. Je vois pas pourquoi il lui ferait le plaisir de démissionner maintenant pour qu'il reste 35 jours pour organiser une présidentielle avant le jugement. Donc je vois pas ce qu'aujourd'hui, de façon concrète, ça peut lui apporter sur ce plan-là strictement judiciaire.
Vous vouliez ajouter quelque chose et on écoutera Teresa dans une seconde après.
Sur la question judiciaire, il n'y a en effet absolument aucune raison.
Ça a été évoqué. Aux gens, 31 mars, hein, la décision.
C'est le 31 mars, la décision. Si elle devait être condamnée à l'LGBT à titre provisoire, ce qui, à ce stade-là, est quand même assez improbable. Mmh. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu des mots de la Cour de cassation qui ont été relativement clairs sur l'application de ces peines LGBT à titre provisoire il y a à peu près un mois. Il y a une QPC devant le Conseil constitutionnel. Et donc, de toute façon, aujourd'hui, c'est loin, loin d'être l'option la plus probable. Mmh. Si ça devait arriver, l'idée qu'il pourrait y avoir des présidentielles anticipées avant le 31 mars et qu'à ce moment-là, elle puisse être candidate est aujourd'hui excessivement improbable.
31 mars, c'est demain. Hein.
Voilà, c'est demain. Et une présidentielle, enfin, vous l'avez dit, c'est 35 jours, etc. Donc, ce faisant, il faudrait vraiment, vraiment qu'il y ait une forme de volonté d'Emmanuel Macron de lui permettre d'être candidate en démissionnant maintenant. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc, pour cette raison-là, je crois vraiment qu'il faut écarter l'explication judiciaire. Le RN a des intérêts stratégiques à ne pas censurer ou à censurer. Je rejoins ce que vous disiez. Les 48 heures, au fond, ça permet quand même au RN de voir la position du PS et de se positionner par rapport à cette position du PS. On est dans la stratégie, électorale. Les juges n'ont pas vraiment leur part là-dedans.
Allez, Teresa, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien voilà, j'avais tout de même réfléchi rapidement. C'est au sujet de Marion Maréchal. On prépare son tapis rouge depuis au moins une dizaine d'années. Je me souviens que sur France Inter, on parlait de la préparation de Marion Maréchal dans une abbaye du Touronnais, je crois. Et pour arriver à aujourd'hui, du RN, de l'extrême droite, nous passons à l'ultra-droite, avec Bardella, Ciotti, etc., tout le groupe. Et puis, j'entendais de l'illégibilité de Marine Le Pen, ça n'a aucune importance, parce que le tapis rouge pour Marion Maréchal est déjà prêt.
Alors, merci beaucoup, Teresa. Ce que j'entends dans ce que nous dit Teresa, Charles Sapin, c'est que la dédiabolisation, il ne faut pas y croire, c'est juste une façade. Et j'entends aussi que, en fait, on prépare le chemin pour une extrême droite bien plus dure. Ça voudrait dire même, d'une certaine façon, un retrait doucement de Marine Le Pen. Est-ce qu'on croit à ça ?
Oui, c'est ça. Et que finalement, quand bien même Marine Le Pen chuterait pour des raisons judiciaires ou autres, il y aurait quelqu'un d'autre derrière elle, que ce soit Jordan Bardella ou Marion Maréchal. Bah, de fait, si vous voulez, la puissance électorale du Rassemblement National ne se résume pas à sa tête de file.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser quand même. J'allais quand même vous demander, parce que quand elle disparaît un peu, je disais tout à l'heure en introduction, on se dit, alors, où est la boussole ?
Vous avez raison, il y a deux choses dans cette question. C'est vrai que quand Marine Le Pen, alors de façon très circonstancielle, quand Marine Le Pen n'est pas là, c'est pas tout le monde danse, mais c'est vrai que le parti est un peu comme à l'arrêt. Et ça, c'est le propre d'un parti très bonapartiste. Ouais. C'est-à-dire que c'est un avantage pour ce parti, c'est-à-dire qu'il ne vote que d'un seul homme, il y a une autorité qui est très respectée, contrairement au PS ou à LR, vous avez l'impression que vous en mettez 6 dans une pièce, vous avez 8 avis différents, bon, au RN c'est carré, mais il y a un inconvénient, c'est quand Marine Le Pen n'est pas là parce qu'elle est en vacances ou parce qu'elle est prise ou parce qu'elle est indisponible, enfin, il n'y a plus personne. Bon, en revanche, sur la question de est-ce que le Rassemblement National n'existe que par Marine Le Pen, non. Et d'ailleurs, la façon de répondre est de faire un dézoom sur ce qui se passe en Europe. Si vous voulez, vous voyez partout, il y a une vague en Europe, des mouvements nationalistes. Alors, elles sont différentes. Vous avez des forces nationalistes conservatrices, des forces nationalistes populistes, un peu comme le RN. Et on voit à chaque fois des ressorts qui sont finalement les mêmes. C'est-à-dire un échec des gouvernants à apporter une réponse.
Mais des ressorts qui sont un peu plus proches de ceux de Marion Maréchal que ceux de Marine Le Pen, non ?
Oui, alors tout à fait. Ouais. Vous avez, en fait, en Europe, vous avez vraiment deux grandes familles. Vous avez les nationaux populistes, que nous on connaît bien, c'est le RN, c'est-à-dire qui sont basés sur, dont le socle idéologique est basé sur une opposition entre le peuple et les élites. Mmh. Et vous avez une autre famille qui sont les nationaux conservateurs, dont la chef de file sans conteste est Giorgia Meloni en Italie, la présidente du Conseil, qui se revendique de la droite, contrairement aux populistes, qui ont une lecture plus civilisationnelle, identitaire, qui sont plus conservateurs sur les mœurs, alors que les nationaux populistes, pas tellement. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ce sont tous deux des nationalistes, mais ils s'opposent sur beaucoup de points. Les populistes sont plutôt sociaux, les conservateurs sont plutôt libéraux. Et c'est pour ça, et d'ailleurs ça se voit en France, on a vu, il y a eu beaucoup d'opposition politique entre Marine Le Pen et sa nièce, Marion Maréchal, pour retomber sur nos pieds et sur la question de Teresa.
Mais alors, Benjamin Morel, pour revenir effectivement sur la question de Teresa et ce qui suit derrière, en effet, si d'aventure elle n'était pas là, alors effectivement vous dites que vous n'y croyez pas, on verra le 31, mais si elle n'était pas là à cause de ces ennuis judiciaires, on se dit que là, pour le coup, on finirait au Rassemblement National par avoir ce que Charles Sapin décrivait avec la droite, c'est-à-dire 6 personnes dans une pièce et 8 avis. Est-ce que c'est ça aussi qu'elle tient en ce moment au Rassemblement National, cette patronne ?
Aujourd'hui, elle tient en effet le parti de manière très très claire. Après, si en effet demain elle ne devait plus être là, il n'est pas sûr non plus qu'elle perde tout à fait la main. C'est-à-dire qu'elle a dans la main le parti, et donc ce faisant, elle pourrait rester malgré tout une autorité, mais elle pourrait plus en être la candidate. Donc ça crée forcément des divisions. Mais je rejoins tout à fait ce que disait Charles tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a deux grands courants en Europe, mais il y a également deux grands courants dans l'ERN. Et il est certain que l'équation personnelle d'un Bardella ou d'une Marion Maréchal, c'est pas tout à fait la même. Mais c'est pas non plus tout à fait la même équation électorale. La force de Marine Le Pen, c'est qu'elle arrive aujourd'hui à mobiliser une base électorale très très large, plutôt abstentionniste originellement, plutôt composée de classes populaires, etc. Et cette base populaire-là, ce serait un vrai défi pour une option plus nationale conservatrice d'aller la chercher. La stratégie populiste, et regardez Marine Le Pen qui notamment parlait de social récemment en tentant d'apporter une forme, si ce n'est de contrefait, en tout cas de contrepoint à Jordan Bardella. Pour l'instant, on a une répartition des rôles entre les deux. L'un parle plus aux milieux d'affaires, etc. L'autre parle plus aux classes populaires. Mais in fine, les milieux d'affaires, ça pèse pas grand-chose électoralement. Il faut arriver à mobiliser ces classes populaires. Donc, au-delà même de l'autorité dans le parti, c'est cette capacité de mobilisation que le parti perdrait peut-être s'il perdait demain Marine Le Pen.
On est en train de parler de la stratégie du Rassemblement National dans la séquence politique d'aujourd'hui au téléphone sonne avec Benjamin Morel qui est constitutionnaliste, avec Charles Sapin qui est journaliste politique au Point, avec Élodie Forêt, journaliste politique à France Inter, et avec vous Jean-Marc, bonsoir. Jean-Marc.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Jean-Marc.
Oui, en fait, je m'interroge souvent avec le téléphone sonne, j'arrive pas à décrocher de France Inter malgré tout, mais je me demande à qui vous vous adressez là, parce que vous vous interrogez sur la stratégie du Front National, etc. Et en ça, vous contribuez à le dédiaboliser parce que vous ne parlez que de la forme, comme si ces gens-là étaient des gens bien, respectables, recommandables. Et puis on va pas au fond des choses, alors que quand même. Vous avez des analystes autour de votre table, des experts. Alors des fois, j'ai envie de me mettre entre guillemets parce que on entend rarement des universitaires. Je sais pas, vous, sur la montée de l'extrême droite.
Bah, je trouve que vous êtes un peu gonflé, Jean-Marc. Excusez-moi, mais vous avez totalement le droit de critiquer. Vous avez totalement le droit. Mais enfin, j'ai quand même l'impression que des experts sur la montée du Rassemblement National, il y en a eu quand même une paire sur l'antenne de France Inter, y compris au téléphone sonne, et aussi du politique. Enfin, tout ça quand même dans les grandes jalures. Mais j'entends. Et alors, on a plein. Et allons-y, répondons à cette question-là. On a beaucoup d'auditeurs qui disent. C'est pour vous, Benjamin Morel, tiens, monsieur le constitutionnaliste, et qui disent ah là là, mais pourquoi on parle du Rassemblement National après tout, puisqu'il se tait en ce moment, on n'a qu'à les laisser se taire.
On a paradoxalement, je trouve, pas beaucoup parlé du Rassemblement National ces dernières semaines parce qu'on était focalisé sur le Parti Socialiste. Ce qui montre bien qu'il y a une volonté de trouver justement une autre voie que celle d'un RN qui serait aujourd'hui l'arbitre des élégances. Mais il est certain que ces derniers mois, on a eu une vie politique, qu'on le regrette ou qu'on s'en félicite, qui a été arbitrée par le Rassemblement National. Il faut bien comprendre que pendant quelques mois, on a eu un gouvernement qui a tenu grâce à son principal opposant politique. Et que cette principale opposant politique est qui plus est d'extrême droite. Ce qui est une situation complètement inédite en France. Et donc, le fait qu'on en parle est tout de même relativement intéressant parce que si un opposant politique soutient un gouvernement, ou en tout cas ne le fait pas tomber, c'est pas pour ses beaux yeux, c'est parce qu'il y a intérêt. Et que donc, ce faisant, il est dans une stratégie qui lui permet d'être sur une pente ascendante, décrypter cette stratégie, tenter d'en comprendre à la fois la dynamique et potentiellement les failles, ça me semble quand même un peu d'intérêt public.
Alors c'est dommage parce que je suis en train de chercher la vraie question de Jean-Marc, qui n'était pas une mauvaise question, qui parlait notamment du positionnement de Marine Le Pen par rapport à ce gouvernement et à François Bayrou. On a dit à un moment, je vous vois réagir Charles Sapin, que l'un n'abîme pas trop l'autre. On a entendu les phrases de François Bayrou au sujet justement des ennuis judiciaires. On a entendu aussi la discussion, enfin tout le week-end a tourné autour de ce mot dont que j'ai oublié, mais vous allez me le redire.
Submersion migratoire.
Ouais, c'était ça, voilà. Et donc on était en plein dans ce débat-là. Donc les relations entre ces deux-là, Charles Sapin.
Bah, c'est vrai que François Bayrou et Marine Le Pen, et depuis longtemps d'ailleurs, ça date d'avant la nomination de François Bayrou à Matignon, c'est un peu les meilleurs ennemis. C'est-à-dire que ça a toujours été courtois. Déjà, François Bayrou n'a jamais fait partie de ces responsables politiques qui ont opposé un front républicain, un cordon sanitaire à Marine Le Pen. Loin de là, il faut se souvenir que dès 2017, c'est aussi en pensant à Marine Le Pen qu'il lance dans l'atmosphère cette idée de banque de la démocratie qui permet de pallier aux insuffisances de financement public dont a eu affaire le Rassemblement National. En 2022, c'est grâce à François Bayrou que Marine Le Pen parvient à se présenter, puisqu'il lui manquait 20 parrainages, 20 ou 40 parrainages sur les 500 nécessaires. Et c'est François Bayrou qui les lui a donnés, en appelant notamment ses amis. Et puis, il y a d'autres choses, des combats qu'ils ont en commun. François Bayrou est pour une proportionnelle, alors pas forcément la même que le RN, mais quand même. Il est donc, si vous voulez, tout ça crée une forme de respect mutuel et qui vient aussi de la... Alors, on s'en souvient un petit peu, mais c'était la campagne présidentielle de 2007 de François Bayrou, où il était vu comme un populiste du centre. Et il y a un peu ce côté en commun entre Marine Le Pen et François Bayrou, ils s'entendent bien un peu là-dessus, ils se sentent tous les deux avoir vécu une période où ils étaient mis à la marge un peu de l'élite politique, ils étaient un peu les bouseux pour des raisons différentes, et donc ça a créé des liens. Maintenant, ils sont évidemment idéologiquement très opposés, très différents, peu de choses...
Les rassemble.
À part la proportionnelle, oui, les rassemble. Oui. Et à commencer par la question de l'immigration, même s'il y a ce mot
submersion.
Submersion migratoire. Si vous voulez, il y a les mots et puis il y a les actes. Dans le programme et même dans ce qu'a dit dans le reste de cette émission François Bayrou, ça allait justement à l'encontre des constats faits par le Rassemblement National, parce qu'il validait notamment une phrase de son ministre de l'économie qui disait que la France, notamment économiquement, a besoin d'immigration. Ce qui revient d'une certaine façon à une incitation à l'immigration, ce que condamne évidemment totalement le Rassemblement National.
En parlant de ce qui a été promis, de ce qui a été dit ou de ce qui a été demandé, Benjamin Morel ou Olivier Faure, la proportionnelle, par exemple, on a l'impression aujourd'hui que d'abord on n'entend plus François Bayrou en parler, et puis surtout on n'entend plus le Rassemblement National la réclamer.
Alors il a malgré tout consulté des parlementaires sur le sujet de la proportionnelle ces derniers jours, ce qui montre qu'il y a malgré tout, et c'est un vrai point important, souvenez-vous quand François Bayrou rallie Emmanuel Macron en 2017, l'un des points qu'il met comme étant pour lui non négociable, c'est l'évolution du mode de scrutin. Il n'en a rien été, mais malgré tout, c'était un point important pour lui et ça revient de loin. Donc, il y a plusieurs difficultés par rapport à ça. Sur le Rassemblement National, aujourd'hui, c'est sans doute, à mode de scrutin constant et à sociologie électorale constante, le seul parti qui peut espérer obtenir une majorité absolue avec le mode de scrutin majoritaire à deux tours. Donc, est-ce qu'il a vraiment intérêt à une évolution du mode de scrutin ? Peut-être que oui, à condition que la proportionnelle lui soit favorable. Il propose une proportionnelle avec une prime majoritaire. L'autre jour, un député parlait de 25%, ce qui est gigantesque, ce qui permettrait évidemment au RN d'avoir à lui seul une majorité absolue. C'est inacceptable pour tous les autres partis politiques, et ils le savent. Du côté de François Bayrou, il a un autre problème. La proportionnelle, avec ce qui s'est passé avec les socialistes aujourd'hui, c'est probablement vital pour le PS en cas de dissolution. Mais pour les LR, les députés LR sont essentiellement des auto-entrepreneurs aujourd'hui. Ils tiennent parce que leur circo. La proportionnelle, ça peut être létal. Et pour Horizon, Édouard Philippe a pris des positions durement contre. Donc aujourd'hui, François Bayrou est à la tête d'un attelage dont l'un des éléments de séparation très forte, avec des intérêts qui sont vitaux des deux côtés, c'est le mode de scrutin. Et là, ça va être très très compliqué pour lui d'avancer. Et puis je rejoins ce qui a été dit, il n'y a pas une forme de proportionnelle. En sciences politiques, on estime qu'il y en a entre 50 et 80. Donc dire on passe à la proportionnelle, c'est une bonne chose, mais la question c'est laquelle ?
Il y a Jean-Luc qui nous demande ceci sur WhatsApp, Élodie Fauré, il dit mais est-ce que Marine Le Pen peut pas être dans un état de grosse fatigue et de baisse d'énergie, décès de son père, etc. Et c'est aussi ça qui explique en fait cette espèce de moment qu'on interprète comme un moment de faux plat, mais un vrai coup de mou quoi.
Alors moi j'essaie de ne pas faire trop de psychologie par rapport aux dirigeants des partis que l'on suit. Oui, ce qu'on a pu constater, c'est que Marine Le Pen a été très impactée par la mort de son père. C'est ce que nous ont raconté beaucoup les gens qui sont dans son entourage, qu'elle avait du mal à s'en remettre. Surtout Marine Le Pen, après la mort de son père, elle a fait ce qu'elle fait rarement, elle a jeté un œil dans le rétroviseur. Marine Le Pen, c'est une femme qui dit toujours « j'avance, j'avance », ça sert à rien de regarder vers le passé. Là, elle s'est arrêtée, elle a regardé en arrière et elle a, à plusieurs reprises, dans plusieurs interviews, dit qu'elle ne se pardonnerait jamais d'avoir exclu son père du parti,
ce qui est quand même assez
en 2015, ce qu'elle n'avait jamais dit. Au-delà de ça, elle fait autre chose quand même qui est marquant, c'est qu'elle relativise toutes les condamnations de Jean-Marie Le Pen pour des propos racistes, antisémites, etc. Elle dit en gros, en 80 ans de vie politique, on ne peut pas faire autrement que d'avoir des sorties comme ça. Ce qui n'est pas vrai, hein, y a plein de personnalités politiques. Elle-même, d'ailleurs, n'a pas été condamnée pour des propos antisémites et racistes. Donc ce regard vers l'arrière, il est assez étonnant. Il est pas complètement facile à comprendre. L'entourage essaye un peu de minimiser ça en disant oui, il y a la douleur de la fille, les explications de la femme politique. C'est un peu étonnant. C'est stratégiquement, on peut dire, une tentative de réhabilitation. Pourquoi à ce moment-là? Moi, j'ai du mal à l'expliquer.
Eh ben, est-ce qu'on peut essayer de l'expliquer, Charles Sapin? Je pense à notre première auditrice tout à l'heure qui disait, moi, la dédiabolisation, je n'y crois pas une seconde. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, en fait? Parce qu'en effet, on ne va pas faire de la psychologie de bas étage, mais le fond et la forme, quoi. À un moment, la forme compte aussi, parfois.
Alors, il y a une séparation qui, normalement, est assez aisée dans le monde politique, mais là, qui est très compliquée, puisque la famille Le Pen, c'est une dynastie. Qui a pour caractéristique que, en fait, la politique s'est toujours faite en famille et la famille est toujours un petit peu politique. Donc, forcément, les deux sont imbriqués et c'est vrai que Marine Le Pen, pour s'en sortir, s'était astreinte à une forme de schizophrénie, c'est-à-dire qu'elle elle voyait Jean-Marie, donc ce père, qui était très pris par la politique, mais qui restait un homme adulé, et puis il y avait Le Pen. C'est comme ça qu'elle parlait de son père longtemps. Le Pen, c'était le responsable politique contre qui elle est partie en guerre. Et guerre qui s'est terminée par l'exclusion de Jean-Marie Le Pen à laquelle elle était. Et donc, si vous voulez, quand l'âge aidant, que la politique quitte Jean-Marie Le Pen après cette exclusion et la fin de son dernier mandat européen, Le Pen disparaît, il ne reste plus que Jean-Marie. Et là, il y a une réconciliation entre le père et la fille. C'est ce qui rend la chose un peu compliquée pour Marine Le Pen. C'est-à-dire que elle vit un deuil profond, qui est celui de son père, et elle ne veut garder que cette image d'homme, c'est humain, quoi, de son père, sur les genoux duquel elle a sauté, elle a grandi, bon, et elle l'efface, elle chante complètement ce que nous, on ne voit que ça. On ne connaît pas Jean-Marie, on connaît que Le Pen, ce responsable politique, et tout ce que ça charrie en outrance, raciste, antisémite, en multi-condamné par la justice, et du coup, il y a une forme de décalage, c'est vrai.
Mais effectivement, pourquoi elle y retourne, quoi? Et c'est ça qui est très étonnant.
Pourquoi elle y retourne?
Elle y retourne quand elle dit « je regrette de l'avoir sanctionné en creux ».
Mais parce qu'elle parle...
Parce que c'était bien pour ces raisons-là.
Non, mais parce qu'elle ne parle pas politiquement.
Alors c'est vrai, elle parle de son père, c'est ça que vous voulez dire?
En fait, elle ne dit pas « je regrette ». D'ailleurs, elle complète, elle dit « elle ne regrette pas de l'avoir exclu ».
Je ne pouvais pas faire autrement, elle.
C'est ça, c'est-à-dire que politiquement, elle comprend pourquoi elle l'a fait et elle dit qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Mais en revanche, en tant que fille... avoir été contrainte d'exclure son père et de priver son père de ce qui a ému toute sa vie, c'est-à-dire un combat politique, elle le vit très mal. C'est quelque chose qui, normalement, est de l'ordre du dialogue intime, mais là, ça la submerge parce que Marine Le Pen est humaine et c'est vrai qu'elle est encore dans cette période de deuil. Enfin, moi, c'est ma lecture, mais voilà.
Est-ce qu'il faut reprendre la main, Élodie Forêt, ou pas? Est-ce qu'il faut, alors la main, j'en sais rien, mais en tout cas, se redonner une voix pour ce parti-là, là, après la séquence, pour marquer le pas après la séquence socialiste, ou pas du tout?
Oui, il va falloir un moment reprendre un récit. Je pense que c'est compliqué quand même un moment pour un parti, quel qu'il soit, d'avoir des articles qui s'enchaînent en disant Marine Le Pen est absente, le RN dans le brouillard, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas où ils vont. Donc oui, j'imagine qu'à un moment, il va falloir reprendre la main. je ne sais pas comment pour le moment. Mm-hmm. Il y aura une décision sur cette censure déjà. Il y aura une décision bon, qui paraît assez évidente, mais enfin, sait-on jamais sur la censure que va, la motion de censure que va déposer ensuite les socialistes sur les valeurs de la République, puisque vous savez qu'aujourd'hui, dans le deal qu'ils ont trouvé entre eux pour accepter de non censurer le budget, ils ont trouvé cette idée de déposer une autre motion de censure dans une dizaine de jours pour sanctionner François Bayrou sur ses propos de submersion migratoire. Mmh. Alors, ça serait intuitivement, on se dit que Marine Le Pen ne peut pas censurer à ce moment-là, mais enfin, en ce moment, tout est tellement irrationnel et anormal que tout peut arriver.
Mais c'est bien la question que j'allais poser, parce que maintenant qu'on arrive effectivement à une phase 2, Benjamin Morel, qu'on n'a pas atteint avec Michel Barnier, ok, qu'est-ce qui se passe maintenant en fait? Est-ce qu'on est parti? On se dit que puisque cette séquence a eu lieu avec une non-censure, ça veut dire que on est prêt pour avancer, pour rouler, même si c'est qu'un cas, et donc que malgré effectivement des levées comme de celle-là, peut-être sur la subversion, etc., on va bon gré mal gré. Ce qu'on a décidé en creux, c'est d'aller le plus loin possible avec ce gouvernement-là, tout parti confondu, au fond.
Vous savez, avant de censurer, il faut une occasion de censure. Ben et oui. La question, c'est est-ce qu'il peut y avoir une occasion de censure? Est-ce qu'il peut y avoir un texte qui, tout d'un coup, mettrait d'accord la gauche et le RN pour faire tomber le gouvernement? À ce stade-là, c'est pas tout à fait évident, parce que, pour l'instant, on n'a aucun programme législatif. Mmh. À part le fait qu'il faut faire passer des budgets. On a des grandes idées, etc. Mais François Bayrou a été assez prudent et malin pour ne pas vraiment donner un programme législatif. Donc pour l'instant, eh bien, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de prise, il n'y a pas vraiment d'occasion. Toutefois, il y a la question d'une potentielle dissolution qui poindrait son nez en juillet. Pour l'instant, les partis n'y ont pas forcément intérêt, mais à voir s'il y a une forme de stabilité. Il y a également quelqu'un qui a une capacité de disruption, comme il dirait, qui est relativement importante, qui est Emmanuel Macron. Mmh. On annonce potentiellement des référendums, etc. On parle de la proportionnelle. Imaginez si demain il annonce un référendum sur la proportionnelle, combien ça va tirer au sein de cette majorité, avec des LR qui vont paniquer, avec Horizon qui va dire non, avec les socialistes qui va dire si, si, nous on en veut, avec des Modem qui vont dire c'est notre projet, etc. Ça va être très très compliqué à gérer, et un RN qui dira peut-être c'est la proportionnelle, oui, mais pas celle-là. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir de vraies forces d'explosion au sein de cette majorité, et un François Bayrou tout d'un coup sur un siège éjectable. Donc il faut, je crois, prendre les étapes une par une. Dans un an également, on a des élections municipales, ça compte beaucoup pour LR et pour le PS, qui sont les grands partis qui tiennent les collectivités territoriales. D'ici là, on peut avoir des forces d'explosion de la majorité qui se remettent en route. Quant au RN, bien, à chaque fois, il choisit l'option qui est la meilleure pour lui. Et donc, on peut penser que là-dessus, il saura se montrer stratège.
Allez, il nous reste peu de temps, mais il nous reste du temps pour vous, Sébastien. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien, je voulais juste dire que il est rare dans les médias qu'on parle objectivement du RN en disant que c'est de l'extrême droite. J'ai le souvenir d'avoir entendu un universitaire sur France Culture qui définissait avec plusieurs caractéristiques l'extrême droite. Mais la première caractéristique, c'est que on fait l'apologie du passé, et le passé c'était mieux que maintenant. La deuxième caractéristique, on essentialise l'autre. L'autre est le responsable de tous les maux. Et avec ces deux définitions qui sont proches de la définition philosophique de l'extrême droite, hein, on se rend compte qu'avec la première, la droite est qualifiée passéiste, contrairement aux progressistes de gauche. Et puis, on se rend compte aussi que le RN, c'est pas un parti de droite radicale, c'est un parti d'extrême droite. Et les LR, quand ils s'amusent avec ces concepts-là, ben, ils sont quasiment aussi, quasi tous d'extrême droite. Et puis enfin, quand on a François Bayrou, qui essentialise l'étranger, qui parle quasiment de vagues de submersion, eh ben, l'extrême droite est pas très loin. Mais il faut pas parler de droite radicale. On est à l'extrême droite.
Merci beaucoup, merci, pardon, hein, mais le temps nous presse. Et en même temps, on parle d'extrême droite, enfin, je veux dire, non? Est-ce qu'on, qu'est-ce que vous en dites, Charles Sapin? Enfin, ah non, moi, bah, j'ai pas l'impression, non, mais honnêtement, non, mais pour vous, pour nous et autour, enfin, je veux dire, est-ce qu'on est timoré pour qualifier le RN de l'extrême droite?
Pardon, mais non, mais le problème, en fait, c'est. Enfin, moi, je n'emploie pas le terme d'extrême droite, et en fait, c'est ce qu'on vient d'entendre, et justement, explique parfaitement pourquoi. C'est-à-dire que c'est un mot qui est devenu un mot galvaudé, qui n'est pas scientifique, qui n'est pas universitaire, qui n'est pas arrêté, et qui fait que chacun a sa propre définition d'extrême droite. Ce qui fait que selon le fait que vous soyez de gauche, du centre ou de droite, ce que vous allez recourir derrière le terme extrême droite va changer. Et c'est problématique, parce que quand vous avez un mot valise comme ça, qui est un sac de toile de jus où tout se mélange, on ne sait plus de quoi on parle. Si vous parlez d'extrême droite, vous ne pouvez plus parler de la différence, c'est une discussion qu'on a eue il y a quelques minutes, entre les nationalistes conservateurs et les nationaux populistes. C'est compliqué.
Vous allez recevoir du courrier, vous, Charles Sapin.
Oui, bah, écoutez, c'est pas très grave.
Je vous le dis, préparez-vous. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à tous pour vos appels. À tout de suite.